بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc chers frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, ce soir un cours qui a pour titre la réponse salafi aux attaques terroristes à Paris, et on pourra rajouter et ailleurs. Donc c'est un sermon du vendredi en date du 9 janvier 2015, qui a été délivré par notre frère Abu Khadija, qu'Allah le préserve, qui est un prédicateur à la mosquée Salafi de Birmingham, qui est un frère anglophone. Et donc, suite aux événements que vous connaissez tous, il a fait un sermon du vendredi pour clarifier la réponse Salafi aux attaques terroristes à Paris, comme je l'ai dit. Et donc j'ai voulu vous partagez cela avec mes frères et sœurs francophones, et donc j'ai donc traduit ce sermon du vendredi que je vais partager avec vous dans un instant, inshallah. Donc le frère Abu Khadija, hafidhahullah, il commence en disant: le premier point dont je souhaite faire part à mes frères et sœurs et à ceux qui nous écoutent est que ces attaques qui ont lieu à Paris, en France ou à tout autre endroit où elles pourraient être reproduites ou initiées ou commises ne sont pas considérées comme héroïques en islam. Elles ne peuvent pas être considérées comme certaines gens ont dit, qu'Allah le Très Haut les guide et les réforme et les guide de leurs ténèbres et de leur égarement vers la guidée, lorsqu'ils ont dit la bannière du jihad a été levée. Cet appel est l'appel des extrémistes, de ceux qui exagèrent, les khawarij, ceux qui sont en réalité les ennemis de l'islam, qui saisissent la moindre opportunité pour propager leur idéologie du faux et leur futilité. Le grand savant salafi de notre époque, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, mentionne le concept du jihad selon la vision des extrémistes. Qu'est-ce que le jihad selon eux, selon ces extrémistes? Il dit, qu'Allah le trouve le préserve, il y a des extrémistes qui jugent le jihad comme étant obligatoire en tout temps et dans n'importe quelle situation, sans en appliquer les conditions préalables et les principes. Ils font cela même si les musulmans sont faibles et sans force, et même s'ils n'ont aucun gouverneur au-dessus d'eux. Et donc chacun d'entre eux combat celui qu'il voit comme un ennemi et s'engage dans des batailles et des escarmouches sans aucun leadership ni autorité légale et tue les non-musulmans qu'il est interdit de tuer. Il tue des gens qui ont des traités avec les pays musulmans et il tue ceux qui sont protégés par des accords et des pactes. Et donc cela est de l'extrémisme et ce n'est pas un jihad. Mais de plus, ces extrémistes vont plus loin en faisant exploser des maisons, des immeubles résidentiels et des quartiers construits dans les villes. Ils tuent des musulmans et des non-musulmans, jeunes et âgés, hommes et femmes, sans aucune miséricorde. Ils causent la terreur dans le fort intérieur des musulmans et des non-musulmans, qui vivent sous la protection de gouvernements musulmans, qu'ils ont l'audace d'appeler cela jihad, mais au contraire c'est de la corruption et ce n'est pas le jihad. Ils tirent les musulmans vers un mal, la destruction et la perte. Le jihad a des conditions préalables et des principes qui le régissent, qui sont clarifiés dans les livres d'exégèse coraniques, c'est-à-dire les livres de tafsir, et dans les narrations prophétiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la hadith, la sunna, la tradition prophétique, et dans les livres de fiqh, la jurisprudence islamique. Le deuxième point, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il n'y a pas un musulman croyant qui ne trouve pas que la moquerie envers l'un des prophètes parmi les prophètes d'Allah est une abomination et un acte blasphématoire envers le Seigneur des mondes, exalté soit-il. Car c'est Allah qui a envoyé ses prophètes et c'est Allah qui a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'avertisseur énonciateur qui annonce la bonne nouvelle et avertisse. La bonne nouvelle du paradis, voici ce que les prophètes ont amené. Ils n'ont pas parlé de par leur propre passion, mais au contraire, ce fut une révélation qui fut donnée à ses prophètes et à ses messagers. Ils ont parlé avec la parole d'Allah sur terre, et ils n'ont parlé qu'avec des mots célestes qui leur furent inspirés en eux, les mots d'Allah. Ils ont parlé avec ces mots, et ils ont amené la bonne nouvelle du paradis à ceux qui adorent Allah, et avertissent du tourment de l'enfer ceux qui adorent d'autres qu'Allah. Les musulmans n'accepteront pas que l'un des prophètes d'Allah, le Tout-Puissant, exalté soit-il, quel que soit ce prophète, soit insulté, et injurié, et moqué, et l'objet de caricatures ou de dessins qui le ridiculisent. Et cela, quel que soit ce prophète, parmi les prophètes d'Allah, que cela soit Abraham, Ibrahim, ou Moïse, Moussa, ou Jésus, Isa, ou Mohammed, sallallahu alayhim salatu wassalam, toute personne croyant en Allah, tout croyant qui croit en Allah et au jugement dernier trouve que cette moquerie et cette dérision offensante, injustifiée, sont une diffamation envers les meilleurs des êtres humains. Se moquer et ridiculiser n'importe quel être humain sans aucun droit est une abomination. Et c'est un acte criminel, et c'est un acte diffamatoire, et une diffamation injustifiée et injuste, cruelle et mauvaise et malfaisante. Et comme cela est plus grave lorsque c'est envers un prophète parmi les prophètes d'Allah, quel qu'il soit, parmi les premiers d'entre eux ou les derniers. Il ne fait pas partie de la justice de dénigrer l'honneur d'un autre musulman, et plus spécialement lorsque c'est quelqu'un vu comme un prophète parmi les prophètes d'Allah par plus d'un milliard et demi d'êtres humains sur cette terre. Un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé et vu par ces musulmans comme étant le meilleur des modèles. Et ce comme Allah a dit, ce dont la traduction du sens est, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier invoque Allah fréquemment. » Sourate l'Ahzab, verset 21. Il est le modèle de conduite à suivre et pas sujet à être moqué. S'amuser n'est pas de se moquer de qui que ce soit, qu'Allah vous bénisse. Nous ne sommes pas ici pour diffamer, ni pour tourner en dérision. Mais au contraire, notre tâche est d'honorer ceux à qui Allah, le Seigneur des mondes, a donné honneur. Et les meilleurs d'entre eux, et les plus aimés d'entre eux par le Seigneur des mondes, sont les prophètes d'Allah. Et le meilleur d'entre eux est le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point, mes frères et sœurs, est que même si se moquer des prophètes d'Allah et de leurs disciples et les tourner en dérision est un crime haineux au regard du Dieu Tout-Puissant, au regard d'Allah, c'est un mal sans aucun doute. Mais empêcher le blâmable a des principes sans aucun doute, qui ont pour source les fondements de l'islam. Parmi les plus importants de ces principes, c'est que le mal ne peut être éradiqué par des moyens qui s'opposent à la révélation qui fut envoyée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce à tel point que l'imam al-Bukhari a comme titre de l'un des chapitres de son authentique, Sahih al-Bukhari, ce magnifique ouvrage dans lequel il compile des paroles et des actions et des caractéristiques du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont toutes authentiques, il y a dans ce titre de chapitre Bab al-ilm qabl al-qawli wal-amal, chapitre de la science avant la parole et l'action. Il dit chapitre, ce qui montre que c'est l'un des principes de l'islam et un fondement parmi les fondements de la religion. Chapitre de la science avant la parole et l'action. Chaque parole et chaque action qu'un musulman fait et dans laquelle il s'engage est précédée par la science. Des principes qui sont enracinés dans la révélation. De même, mes frères et sœurs, sans science du Coran et de la Sunna, la tradition prophétique, la personne se cause du tort à elle-même et il est en état de péché au regard d'Allah. Allah dit selon la traduction du sens est et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Surat al-Isra, verset 36. Et Allah dit ce dont la traduction du sens est et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 169. Ordonner le bien et empêcher le mal. Al-Amr bil-Ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Le fondement de cela est la science et sa moelle épinière et les fondations sur lesquelles les gens se basent et sur lesquelles ils bénéficient d'un support avant d'empêcher un mal ou d'ordonner un bien. Si une personne ne met pas cela en application, alors elle est injuste envers elle-même et elle va être injuste envers d'autres et elle va se faire du mal à elle-même et elle va faire du mal à d'autres et elle va dépasser les limites en oppressant à l'instar de ceux qui prétendent faire le jihad en tuant et en détruisant, alors qu'en fait rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Ce dans lequel ils se sont engagés n'est pas le jihad, mais au contraire c'est une corruption du monde et une corruption de la religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim dans son sahih, dans son authentique, « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il l'arrête de sa main, et s'il n'en est pas capable, qu'il le fasse avec sa langue, en parole, et s'il n'en est pas capable, qu'il le fasse avec son cœur. » Il n'y a certes pas après cela le poids d'un atome de foi. Le savant salafi du 7e siècle, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que le Très-Haut lui fasse miséricorde, dit dans le volume 28 de son recueil de fatawa, quant au fait de détester un mal avec le cœur, cela est obligatoire dans toute situation, car il n'y a aucun mal qui en résulte, qui y est associé. Et quiconque ne fait pas cela n'est pas considéré comme un croyant. Et ce en raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il le réprouve de son cœur, car cela est certes le degré de foi le plus faible. Dans une autre version, car il n'y a certes pas après cela le poids d'un grain de moutarde de foi. Ibn Taymiyyah, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde, continue et dit, il y a deux groupes égarés en ce qui concerne le fait d'empêcher un mal. Le premier groupe abandonne le fait d'ordonner le bien, et en même temps le fait d'empêcher le mal et prétendre qu'on ne devrait pas s'occuper des gens et les laisser faire comme il leur plaît. Puis il a cité le deuxième groupe égaré et il dit qu'il y a ceux qui désirent ordonner le bien et empêcher le mal avec leur langue et avec leurs mains en toute situation, sans aucune compréhension et sans aucune décence et sans aucune patience et sans aucune perspicacité et sans aucune analyse afin de distinguer ce qui est bénéfique de ce qui ne l'est pas et sans aucune inquiétude quant à ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils n'ont pas la capacité de faire. Voir Majmou' al-Fatawa, le recueil de Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 28. L'élève d'Ibn Taymiyyah, un autre imam salafi, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, qu'Allah le trouve lui fasse miséricorde également, dit « Interdire le mal à quatre niveaux ». Mais ça, c'est important de comprendre ici ce que dit le frère, car les gens qui commettent ce genre d'actions criminelles et barbares se revendiquent justement du fait de d'interdire le mal et d'ordonner le bien. Il dit, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit « Interdire le mal à quatre niveaux ». Le premier niveau, le mal est entièrement éradiqué et remplacé par son opposé, c'est-à-dire le bien. Le deuxième, le mal est réduit même s'il n'est pas entièrement éradiqué. Le troisième, le mal est remplacé par un mal qui lui est égal. Et le quatrième, le mal est remplacé par un mal qui est plus grand. Puis Ibn Qayyim, quand il lui fasse miséricorde, il dit, les deux premiers niveaux sont légiférés, c'est-à-dire le niveau qui a dit, le mal est entièrement éradiqué et remplacé par son opposé, c'est-à-dire le bien. Et le deuxième niveau qui est, le mal est réduit même s'il n'est pas entièrement éradiqué. Il dit, ces deux premiers niveaux sont légiférés et corrects dans la religion. Et le troisième, comme on a dit, qui est que le mal est remplacé par un mal qui lui est égal, est sujet à l'effort d'interprétation, ijtihad, des savants. Et le quatrième, qui est que le mal est remplacé par un mal qui est plus grand. Le quatrième est que quelqu'un se mette à interdire un mal et que ce qui en résulte est un mal plus grand. Il n'est alors pas permis de se mettre à interdire ce mal à cet égard. Puis Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Donc, si tu vois des gens en état de péché se réunir pour des paroles futiles et vaines, pour des jeux, de l'amusement, ils s'assoient ensemble afin d'écouter les clapements de mains et les sifflets, si tu sais que tu peux les tourner vers des actes d'obéissance envers Allah, alors tu devrais le faire. Et si tu ne peux pas, il est alors meilleur de les laisser faire ce qu'ils font plutôt que de les faire se tourner vers ce qui est un mal plus grand ou un plus grand mal que ce qu'ils commettent déjà. De manière similaire, le cas d'un homme qui s'occupe avec des livres dénués de pudeur, et si tu as peur que le détourné de ces livres dénués de pudeur pourrait résulter en ce qu'il se tourne vers les livres d'innovation religieuse et d'égarement et de sorcellerie, etc., il est alors meilleur de le laisser avec les livres dénués de pudeur avec lesquels il était initialement occupé. Le frère Abu Khadija continue son serment en disant « Cela est meilleur. En raison de quel principe ? Le principe qui dit que tu risques de le faire se tourner d'un mal vers un mal qui est plus grand. En interdisant ce mal, tu risques que cela résulte en un mal plus grand. » Alors ici, je voudrais faire un point de ma part ici, une citation d'un grand savant de l'islam, parce que certains risquent de venir avec une ambiguïté en disant « Oui, mais c'est un sujet à divergence, par exemple. » Mais je vous rapporte la parole du grand savant et mufti du royaume d'Arabie Saoudite de son vivant, Cheikh Abdel Aziz Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit « Et la règle religieuse sur laquelle les savants sont unanimes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas divergence, est qu'il est interdit de retirer un mal par un mal plus grand. Mais de plus, il est obligatoire de repousser le mal parce qu'il le fait complètement disparaître ou le diminue. Tandis que repousser le mal par un mal plus grand, ceci est interdit à l'unanimité des musulmans. » Et je vous donne la référence, c'est recueil de Fatawa de Cheikh Ben Baz, volume 8, page 203. Ce sont les mots de cet imam et savant salafi Ibn Qayyim, qu'Allah le trouve lui fasse miséricorde, dans son livre I'lam al-Muqayyin. Ça, c'était par rapport à la parole d'Ibn Qayyim qu'on a cité. I'lam al-Muqayyin, al-Rabbil Alamin, volume 3. Maintenant, méditez un moment, mes frères et sœurs. Méditez ce que contiennent ces paroles magnifiques d'Ibn Qayyim et jugez les massacres et les atrocités qui sont commis des mains de ces extrémistes au nom de l'islam. Et vous verrez que leur soi-disant interdiction du mal n'amène que des maux qui sont plus grands, un plus grand assujettissement des musulmans, et plus de gens qui se mettent en avant pour remettre en cause l'honneur du noble prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous étudions le passé de ces extrémistes, nous trouvons assez souvent qu'avant qu'ils s'engagent sur cette voie d'extrémisme de violence et de soi-disant jihad, comme ils le prétendent, vous trouverez assez souvent qu'ils étaient engagés dans la criminalité et les mœurs légères et fumant des drogues et dans des larcins, et dans un comportement brutal et violent, et autres grands péchés, et ce avant qu'ils soient égarés dans l'extrémisme, pensant quant à leur propre personne qu'ils sont dans la guidée. Par Allah, en se basant sur ces paroles d'Ibn Qayyim, il aurait été meilleur de rester dans leurs péchés et dans leur criminalité que d'avoir commencé ce qu'ils appellent pratique de l'islam, ou plutôt pratique de cette déviance extrémiste. Cheikh al-Islam Taymiyyah, qu'Allah le Très Haut lui fasse miséricorde, dit dans le volume 14 de son recueil de fatawa, toujours par rapport au ce qu'on appelle fiqh al-amr bil ma'ruf wa nahy 'an al-munkar, c'est-à-dire la manière d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il dit, beaucoup de ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal dépassent les limites, transgressent les limites établies par Allah. Et cela est dû soit à leur ignorance ou à leur oppression. Et cela est un domaine dans lequel il est nécessaire d'être fermement enraciné dans les principes islamiques. Et cela est que ce soit dans le fait d'interdire le mal qui émane des non-croyants, ou des hypocrites, ou des transgresseurs, ou des musulmans qui sont en état de péché. Fin de la première partie du sermon d'Abu Khadija, comme je l'ai dit. Mais le frère, il commence cette deuxième partie du sermon du vendredi 9 janvier 2015 en disant « Mes frères et sœurs, cela réitère le fait que ceux qui sont plongés dans l'ignorance et aveuglés par la rage et idiots en termes de pensée et déviants dans leur compréhension sont les derniers sur terre qui devraient se mettre en avant pour ordonner le bien et interdire le mal. Maintenant, les conséquences néfastes de ces actions sont au vu et au su de tous. » Et finalement, leurs actions causent du tort aux musulmans et à l'invitation à l'islam. Ceux qui se sont engagés dans cette entreprise, portés par leurs émotions et leurs concepts corrompus, selon lesquels le mal doit être interdit, sont responsables de tout mal qui a résulté, qui afflige les gens et les musulmans en particulier. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans ce magnifique ouvrage, qui est le sien, qui s'appelle « Al-Amr bil-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar » Ordonner le bien et interdire le mal. Écoutez cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, et si par le fait d'interdire ce mal, un mal plus grand devait en résulter, il aurait alors interdit et pas permis d'interdire ce mal, et cela même si cela résulte en la perte d'un bien moins grand. Dans cette situation, ordonner le bien résulte en ce qu'un mal plus grand ait lieu. Et donc en substance, cela serait considéré comme le fait d'ordonner le mal et de prôner la désobéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation d'Ibn Taymiyyah. Et vous pouvez voir cela, car des gens qui débarquent et disent « Nous protégeons le messager d'Allah » ou « Nous protégeons son honneur » ou « Nous interdisons un mal » et moi je rajoute ici, ou qui disent « Nous avons vengé le prophète » et par leur profonde ignorance et par leur stupidité, ils vont de l'avant et commettent ce qu'ils voient comme le fait d'interdire le mal. Ce qu'ils n'ont aucun droit de faire, car ils n'ont aucune autorité pour le faire. Et le résultat de cela est un mal plus grand. L'augmentation de ce mal, ce sont eux qui ordonnent ce mal. Ils sont alors responsables pour cette augmentation du mal qui a lieu en raison de leurs actions basées sur l'ignorance et en raison de leur stupidité. Ce sont les paroles des grands imams de l'islam. Et ne commencez pas à penser par vous-même que « oui, mais ils ont fait ceci, oui, mais ils ont fait cela ». Et moi je rajoute, comme on peut entendre sur les réseaux sociaux ou lire dans les réseaux sociaux ou dans d'autres moyens de communication, ou qu'on peut entendre, et donc le frère ici, il dit, ils n'ont rien fait d'autre que de causer du tort à l'islam et faire du mal aux musulmans. Il y a un mal plus grand qui touche les musulmans. Ce sont les paroles des savants qu'Allah élève en toute époque et en tout temps, afin que nous ne glissions pas et que nous ne trébuchions pas et que nous n'égarions pas autrui. Et la réalité de ce qui résulte des méfaits de ces auteurs de crimes et de ces extrémistes est qu'ils endossent la responsabilité de toute calamité et de tout méfait, et de toute oppression et de toute transgression qui touche les musulmans, en raison de leur stupidité et de leur corruption et de leur désir de rectifier un mal d'une manière qui n'est pas légiférée par Allah ni par son messager sallallahu alayhi wa sallam dans les fondements et dans les principes. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son ouvrage I'lam al-Muqqi'in al-Rabbil Alamin, volume 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré à sa communauté l'obligation d'interdire le mal afin qu'en interdisant ce mal, un bien se concrétise. Fin de citation d'Ibn Qayyim rahimahullah. C'est ce que tu fais, tu interdis le mal afin qu'un bien se concrétise, un bien qui est aimé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qayyim continue en disant, cependant si par le fait d'interdire un mal, cela nécessite que cela résulte en un mal plus grand qui est détesté par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'est pas permis de l'interdire, même si Allah déteste ce mal et déteste ceux qui le commettent. Fin de citation d'Ibn Qayyim. Le frère Abu Khadija, qu'Allah le préserve, il dit: voilà les gens de la sunna, oh mes frères, ceci est la salafia. Ici je voudrais faire un point par rapport à ce qu'on peut entendre dans les médias et par des pseudo-spécialistes de la salafia qui catégorisent la salafia en trois catégories. Ils disent qu'il y a une salafia qui est violentiste, terroriste, extrémiste, c'est-à-dire les khawarij, et qu'il y a une salafia qui est soi-disant quiétiste, shiouriste, piétiste, c'est-à-dire les vrais salafis, et une salafia qui est militante au terme politique du terme, et qui serait les frères musulmans. C'est une catégorisation qui est fausse et qui n'a aucun fondement. Les salafis ne sont qu'un seul groupe, et c'est ceux qui suivent les plus prédécesseurs de Ridwanullah alayhim dans les fondements et les branches de la religion. Ceux qu'ils appellent soi-disant les salafis djihadistes, terroristes, violentistes, ce ne sont autres que les khawarij, contre lequel le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde dans de nombreux hadiths, dans de nombreux textes. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et toutes les générations de savants jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos savants contemporains, à l'instar de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Uthaymeen, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Obed, de Cheikh Rabi', de Cheikh Al-Fawzan, si vous pouvez citer n'importe quel savant salafi contemporain, qu'il soit en Saoudie d'ailleurs, en Arabie Saoudite ou ailleurs, ils mettent tous en garde contre cette secte qui s'appelle la secte des Khawarij et qu'on ne peut pas appeler salafiste ou salafi. Donc le frère ici, il dit: ceci est la salafia. La salafia n'est pas aveugle, elle n'est pas sans vision, elle n'est pas sans perspicacité, mais au contraire, c'est une clairvoyance, et c'est une perspicacité. Et ce n'est ni transiger ni faire un compromis dans les fondements de la religion. Mais au contraire, c'est une perspicacité, et c'est une profondeur dans la science. Et c'est pour cela que nous nous référons aux gens de science et aux savants. D'ailleurs, un point ici que je voudrais faire, c'est que Cheikh Zayd, qui est mort, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait dit, dans un de ses cours, il avait dit que l'une des caractéristiques, ou l'une des spécificités plutôt, des salafis, eh bien c'est leur attachement à la science. C'est leur attachement à la quête de la science. En opposition d'ailleurs à ces extrémistes ignorants qui ne sont pas attachés à la science correcte et à la science authentique héritée du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le frère ici, il continue en disant: la salafia n'est pas aveugle, elle n'est pas sans vision, elle n'est pas sans perspicacité, mais au contraire, c'est une clairvoyance. Et c'est une perspicacité, et ce n'est ni transiger ni faire un compromis dans les fondements de la religion. Mais au contraire, c'est une perspicacité et c'est une profondeur dans la science. Et c'est pour cela que nous nous référons aux gens de science et aux savants. D'ailleurs, si vous me permettez, je vais faire un point à la fin de ce cours par rapport à une déclaration de Cheikh Obeid par rapport aux événements et aux massacres qui ont eu tristement lieu au journal Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on a posée à Cheikh Obeid El-Jabiri, justement en application de ce principe de revenir aux gens de science dans toutes les affaires qui nous touchent. Donc le frère ici, il dit: qui ont-ils ces extrémistes? Des anciens proxénètes? Des revendeurs de drogue? Des voleurs et des criminels? Qui maintenant tiennent l'étendard de l'extrémisme? Où sont leurs savants? Où est leur science? Le frère donne un conseil et il dit: attachez-vous à la vérité, attachez-vous au savant de la vérité, qu'Allah vous bénisse. Le quatrième point: qui doit en réalité prendre la responsabilité d'ordonner le bien et de réprimander les gens selon l'islam ou en islam? Le cheikh salafi de cette communauté, cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, déclare: interdire le mal par les mains, c'est-à-dire par la force, c'est-à-dire empêcher le mal ou punir la personne qui est responsable de ce mal, est du ressort des gens qui détiennent le commandement, les autorités qui sont à la tête du dispositif de gouvernance. C'est à eux que revient la responsabilité de punir. Interdire le mal par la parole revient aux savants, qui détiennent la science et la sagesse et la perspicacité et la compréhension. Quant à détester le mal par le cœur, cela appartient au commun des gens qui n'ont ni autorité ni science. Donc mes frères et sœurs, méditez. Avant cela, c'est la fin de citation de Charles Fawzan. Donc mes frères et sœurs, méditez. Méditez au sujet de ceux qui ont perpétré ces crimes. Il faut appeler les choses comme elles sont, c'est un crime. Et méditer le résultat et ce sur quoi ils sont. Premièrement, ils n'ont pas de science. On n'a pas le temps maintenant, mais on a de nombreuses traductions à ce sujet dans les sites salafis, notamment le site que je gère, spfbirmingham.com, qui montre les ambiguïtés de ces gens-là et qu'ils n'ont aucune science. Et quand on tombe sur des paroles de ces gens-là sur Twitter et autres, on voit leur niveau d'ignorance. Ils n'ont pas de science, ils n'ont aucune compréhension, ils n'ont aucune perspicacité, ils n'ont aucune patience, ils n'ont aucune expérience. Ils ne se réfèrent pas à ceux qui ont de l'expérience parmi les gens de science. Deuxièmement, ils n'ont aucune autorité, aucun pouvoir. D'ailleurs, j'avais tweeté sur mon compte Twitter, Mehdi Maghribi, sur Twitter, vous pouvez y retourner il y a quelques jours, une parole d'Ibn Taymiyyah par rapport à ça, et par rapport au fait de qui doit appliquer les peines légales ou autres. Ils n'ont aucune autorité, aucun pouvoir. Qui les a placés comme responsables? Qui leur a donné l'autorité, le pouvoir? Qui a jugé parmi les juges musulmans? Vous, c'est-à-dire les extrémistes, ne les avez pas. Vous vivez dans des pays qui ne sont pas des terres d'islam. Donc, avec quelle autorité appliquez-vous les peines légales d'Allah? Sans aucune autorité au gouverneur au-dessus de vous. D'ailleurs, j'ai traduit il y a quelques jours, ou plutôt il y a un certain temps, et je l'ai remis il y a quelques jours sur Twitter et notamment sur le site, un conseil et une clarification du noble savant et du grand savant Cheikh Obed El-Jabiri, Hafidhahullah, qui est un contemporain qui vit actuellement à Médine, qui nous enseigne la manière de nous comporter avec nos voisins et non musulmans et comment nous comporter dans les sociétés non musulmanes. Ça, c'est un point important où certains peuvent avoir des mauvaises compréhensions. De retourner à cette traduction, c'est très bénéfique. Et que c'est évidemment un comportement basé sur la bienfaisance et sur le bon comportement, etc. Donc, avec quelle autorité appliquez-vous les peines d'Allah, les peines légales d'Allah? Sans aucune autorité ou gouverneur au-dessus de vous. Troisièmement, ils ont exposé les musulmans à un mal plus grand et à plus de restrictions, et à ce qu'ils soient analysés à la loupe de manière injustifiée. Quatrièmement, ils ont encouragé plus de non-musulmans et de non-croyants à se moquer de l'islam. Il y a le détournant dérision, pardon, le tourner en dérision. Il y a plus se moquer du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a se moquer des musulmans. Et vous le voyez, mes frères et sœurs, ça c'est une parole qu'Abu Khadija a dit d'ailleurs sur son compte Twitter et j'ai fait référence à cela aussi, sur le mien, c'est que par rapport aux caricatures, par rapport au journal Charlie Hebdo, avant les événements tragiques, il y avait une édition à 60 000 exemplaires peut-être. Un peu moins ou un peu plus. Et maintenant, il est imprimé des chiffres qui disent 3 millions, puis ensuite 5 millions, puis ensuite carrément maintenant 7 millions d'exemplaires traduits en 6, certains disent 16 langues, hein, en fonction des sources qui donnent ces informations-là. Donc vous voyez comment ça a été démultiplié. Donc le frère, il dit ici, ils n'ont fait qu'ouvrir une porte, car maintenant vous pouvez voir de plus en plus de caricatures et plus de caricaturistes dire, nous allons nous lever et nous allons le faire. Donc ceci ne les a pas affaiblis, mais au contraire, cela les a encouragés, car maintenant ils croient qu'ils défendent une sorte de liberté qu'ils croient avoir comme un don de Dieu. Ils n'ont aucun droit d'insulter qui que ce soit. Qu'en est-il alors d'insulter les prophètes d'Allah, le Très-Haut? Ici, vous avez remarqué que le frère fait un point ici qui est très important dans notre croyance, c'est que c'est qu'il y a caricature, ou moquerie, ou raillerie, ou dénigrement, ou insulte, etc., ne sont pas autorisés et sont considérés comme une mécréance d'ailleurs en islam, et que cela soit envers quelque prophète que ce soit. Maintenant vous, c'est-à-dire les extrémistes, les avez encouragés et vous leur avez donné ce courage. Et maintenant, vous voyez en moins de 24 heures combien de gens en plus se moquer et dénigrer et insulter notre prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? À cause de ces idiots. Car ceux qui en sont responsables, quels qu'ils soient, croyaient réaliser quelque chose de bien. Cinquièmement, ils ont érigé une barrière supplémentaire entre les non-musulmans et le fait de se convertir à l'islam et de connaître la beauté de l'islam. Et d'ailleurs, ici, un point que je voulais partager avec vous, qui est une anecdote, c'est qu'un de nos frères prédicateurs racontait qu'un chauffeur de taxi, qu'il connaît, a pris un non-musulman, un client non-musulman en charge et qu'il l'a amené à un certain endroit et que donc justement le non-musulman lui disait qu'il ne connaissait pas avant ces événements, qu'il ne connaissait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que justement en entendant parler beaucoup de lui, il a voulu s'intéresser, savoir qui il était et il a dit vous avez quelqu'un de magnifique, quelqu'un de très 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 important Il a dit, je n'ai pas pu quitter l'écran de mon ordinateur jusqu'à 7 heures du matin. Il a passé toute la nuit à lire sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, s'il y a des non-musulmans qui nous écoutent, je les invite du fond de mon cœur à étudier la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et apprendre qui il était. Et de ne pas laisser les actions de ces extrémistes, de ces terroristes, de ces sauvages, de ces barbares, être une barrière entre eux et le fait de connaître ce grand homme, ce prophète et ce messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le frère, il dit ici, cinquièmement, ils ont érigé une barrière supplémentaire entre les non-musulmans et le fait de se convertir à l'islam et de connaître la beauté de l'islam. Donc maintenant, il y a une barrière supplémentaire que tu dois franchir car cela les a rendus plus distants. Sixièmement, ils ont créé une image que l'islam, selon laquelle l'islam serait une religion de trouble et de désordre et d'anarchie, et dans laquelle chacun peut faire comme il l'entend, prendre n'importe quel verset du Coran, et n'importe quel hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'appliquer comme on lui semble de manière fantaisiste, selon son commandement et selon sa propre compréhension qui lui est inspirée par les démons. Septièmement, ils ont détourné les gens du vrai message de l'islam, qui est l'appel à l'adoration d'Allah, qui est le seul endroit d'être adoré, sans lui donner d'associer dans quelque aspect que ce soit de l'adoration. Ceci était le point de départ de l'appel des messagers, tous les messagers, de Noé, en passant par Moïse, Jésus et finalement Mohammed, alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam ajma'in. Ceci était leur appel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut moqué et dénigré, et fut appelé un sorcier, et fut appelé un poète, et fut appelé un fou, et fut appelé de toutes sortes de noms. Dernier un point de bénéfice que je vous rapporte ici, Cheikh Khalid Abdurrahman, il rapporte que à la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam était victime d'insultes, de moqueries, de dénigrements, de railleries, etc. Nuit et jour de la part des idolâtres de Quraysh. Et malgré cela, aucun compagnon n'a réagi de la manière avec laquelle on réagit ces gens aujourd'hui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut moqué et dénigré, fut appelé un sorcier, fut appelé un poète, et fut appelé un fou, et fut appelé de toutes sortes de noms. De plus, il fut insulté et il fut frappé. Et malgré cela, à quoi les appelait-il ? À dire la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré par Allah, car ceci était l'appel. Et encore plus, comme les savants le disent en temps de faiblesse, et en temps où la communauté est faible, alors nous revenons à ceux auxquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé, et nous endurons le mal qui nous touche. Donc ceux-là, c'est-à-dire les extrémistes, ont détourné les gens du vrai message de l'islam. Le cinquième point. Soyez attentifs et soyez vigilants, mes frères et sœurs, et reconnaissez l'extrémiste pour ce qu'il est. Il y a des signes, et reconnaissez leurs caractéristiques. Il y a des signes et des caractéristiques qui sont apparents chez l'extrémiste, et qui sont reconnaissables pour celui qui sait ce qu'il faut chercher. Reconnaître ces signes est essentiel dans la lutte contre la radicalisation de notre jeunesse musulmane. C'est un terme qu'on entend beaucoup. On entend beaucoup de gens se revendiquer de cette lutte contre la radicalisation de la jeunesse musulmane. Et les experts en la matière sont les salafis. D'ailleurs, un de nos frères, a écrit un livre en anglais sur le sujet, qui a été traduit complètement en français, que je suis en train de réviser, qu'Allah me facilite de le finir, qui a pour titre la montée de l'extrémisme jihadiste en Occident. Et d'ailleurs, l'auteur il a fait plus de 200 pages, il est fini, mais il est en révision, en français, et c'est un livre qui est disponible déjà en anglais depuis de nombreuses années. Et ça, c'est une réalité, c'est que les anglophones ont plusieurs longueurs d'avance sur les francophones sur ce sujet-là et d'autres. Et donc, l'auteur justement de ce livre-là me disait il n'y a pas longtemps qu'il voulait rajouter un chapitre sur ce qui concerne les khawarij, les extrémistes de Daesh, ISIS ou EIL selon les différentes appellations. Justement donc, le frère il dit, reconnaître ces signes est essentiel dans la lutte contre la radicalisation de notre jeunesse musulmane. Ne citant que quelques-uns de ses traits, il dit, premièrement, ceux qui appellent à l'extrémisme focalisent l'attention des jeunes et des nouveaux pratiquants et des nouveaux convertis à l'islam. Ils focalisent constamment leur attention sur la situation politique des régimes états musulmans. et sur le Moyen-Orient et en font le point central des discussions religieuses. Quand vous voyez les tekfiris ici en Angleterre, ou chez vous en France, ou en Belgique, etc., c'est une des premières choses par lesquelles ils commencent avec les nouveaux convertis, les nouveaux pratiquants et les jeunes, etc. Deuxièmement, ils critiquent publiquement les chefs d'État musulmans qu'ils considèrent comme des tyrans et appellent à la rébellion dans les pays musulmans sous la bannière de « Inil hukmu illa lillah », le jugement n'appartient qu'à Allah. Une parole qui est détournée et employée de façon impropre. D'ailleurs, je vous rajoute un point ici, exactement comme les Khawarij l'ont fait au temps de Ali. Ils ont dit « Inil hukmu illa lillah ». Mais la réponse d'Ali fut excellente quand il leur a dit « Kalimatu haq, urida biha batil ». C'est une parole de vérité par laquelle le faux est cherché et voulu. Une parole qui est détournée et employée de façon impropre. La troisième parmi leurs caractéristiques, ils font l'éloge des leaders des idéologies extrémistes et donc vous les voyez faire l'éloge de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb est vénéré par tous les tekfiris, par tous les extrémistes dans le monde. D'ailleurs, ça c'est un point de ma part ici, quand vous voyez sur Twitter ou d'autres, vous voyez des images qui sont postées ou des commentaires, etc. par les tekfiris, les khawarij de Daesh, eh bien, vous voyez qu'ils se réfèrent et qu'ils vénèrent Sayyid Qutb. Même plusieurs disent qu'ils ont lu et ils ont été inspirés par Sayyid Qutb en prison, lorsqu'ils étaient en prison, qu'ils ont lu ses ouvrages. Ben Laden le vénérait Sayyid Qutb. Ayman al-Zawahiri le vénérait. Anwar al-Awlaqi le vénérait. Abu Qatada le vénérait. Abu Hamza al-Masri le vénérait. Anwar al-Awlaqi, peut-être que les francophones ne le connaissent pas beaucoup. C'était un yéménite qui vivait aux États-Unis, qui était tué au Yémen d'ailleurs. Et que ici, dans le monde anglophone, on connaît très bien et contre lesquels on a écrit des réfutations il y a de nombreuses années déjà. Et qui a apparu dans l'actualité francophone il n'y a pas longtemps, suite aux événements de Paris récemment. Il y a Abu Qatada, que vous connaissez peut-être sûrement aussi. Abu Qatada le vénérait, Abu Hamza al-Masri le vénérait. Tous ces gens-là, ils vénéraient Sayyid Qutb. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est un point central pour la compréhension de ces groupes extrémistes contemporains, qui se revendiquent du jihad faussement d'ailleurs, et bien qu'il c'est une référence centrale, c'est Sayyid Qutb. Et ça, c'est très bien expliqué dans le livre que je suis en train de réviser actuellement et qui sera disponible prochainement, Inch'Allah, à la vente. Donc le frère, il continue en disant « Il fut un leader, c'est trop tôt proéminent des frères musulmans et exécuté en 1966. Ses ouvrages sont propagés et donc ils appellent à ses ouvrages. Leur quatrième caractéristique de ces extrémistes et de ceux qui sont sous leur influence, ils se distinguent par le fait de juger les musulmans qui contredisent leur vision politique du monde comme étant des mécréants. Ils les excommunient, tekfir, ce qu'on appelle tekfir, c'est pour ça qu'on les appelle des tekfiris. Ils les excommunient du fait d'entrer au paradis. Ils leur disent « Vous n'êtes pas au paradis, vous êtes en enfer éternellement. » Ils voient que les chefs d'État musulmans qui commettent des péchés ou des actes de tyrannie ne sont pas des musulmans. Ils déclarent les musulmans comme étant mécréants. Ce qu'on a dit, on appelait, hein, dans la terminologie de l'islam, tekfir. Et donc ce sont des tekfiris. Cinquièmement, les extrémistes en Occident font souvent l'apologie de la violence perpétrée par ces soi-disant groupes djihadistes. Ils ne sont pas en djihad. Ils sont dans l'extrémisme et dans la corruption. Et je voudrais rajouter un point ici. Faites attention aux gens qui sont plus vicieux dans leur apologie et qui font un genre de détail. Ils disent « Non, mais en France, on ne peut pas. » Sous-entendant qu'ailleurs, on peut. Faites attention à ce genre de discours-là aussi. Ils ne sont pas en jihad. Ils sont dans l'extrémisme et dans la corruption. Ils glorifient les actes de ces extrémistes et donc ils vont glorifier, faire l'apologie de ce qui s'est passé à Paris. Ils vont faire l'apologie des bombes qui explosent dans les différentes terres d'islam, que cela soit au Yémen ou en Arabie Saoudite, ou autre que les terres d'islam, que cela soit en Espagne ou en France ou à Londres, ou à n'importe quel autre endroit. Ils vont faire l'apologie de ces actes terroristes. Vous ne trouverez pas dans leur discours la condamnation de l'extrémisme violent ou de ses leaders. Si vous voyez des gens parler de cette manière, alors sachez qu'ils sont sur une voie d'égarement et d'extrémisme et la voie des khawarij. Qu'Allah nous protège et protège nos familles, protège nos communautés du mal de ces gens, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils sont les pires de ceux qui sont tués sous la voûte céleste », c'est-à-dire les khawarij. Et comme je l'ai dit, c'était un serment du vendredi du 9 janvier 2015 de notre frère Abu Khadija à la mosquée Salafi de Birmingham. Et cette traduction sera disponible dans les heures qui suivent, Inch'Allah, sur notre site en PDF et en audio. Et je voulais juste vous lire quelque chose en plus, si vous permettez, par rapport à ce qu'on a dit au fait de revenir au Ulama et par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on appelle les événements de Charlie Hebdo. Bien, je vous lis le texte. Suite aux événements tragiques de cette semaine, c'est la semaine où, de ces événements que j'ai écrit cela, au siège du journal Charlie Hebdo qui ont résulté en la mort d'au moins une douzaine de personnes, nous avons décidé d'appeler le grand savant Cheikh Obed El-Jabiri, qu'Allah le préserve, afin qu'il nous explique la position islamique correcte quant à ces événements et afin qu'il conseille les musulmans de France au sujet de la manière de se comporter face aux attaques contre les musulmans qui sont une conséquence directe de ces actes criminels et terroristes. Ceci en application de la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est « Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût-ce été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. » Sourate Nisa, verset 83. Le très savant et exégète du noble Coran, Cheikh Abdelrahman ibn Nasser al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est un cheikh contemporain et qui était le cheikh de Cheikh al-Uthaymin et d'autres, il dit au sujet de ce verset: ceci est une correction de la part d'Allah à ses serviteurs, qu'ils ne commettent pas cet acte, qu'ils ne sient pas, et qu'il leur convient lorsque leur parvient une affaire parmi les affaires importantes et parmi les biens généraux, ce qui est lié à la sécurité et au bonheur des musulmans, ou à la peur, dans laquelle il y a une calamité pour eux, qu'ils vérifient et ne se précipitent pas à diffuser cette information, mais au contraire, qu'ils la rapportent aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux qui détiennent le commandement parmi eux. Ici, par rapport à cette parole de ceux qui détiennent le commandement parmi eux, Cheikh Abdelrazak al-Badr, qui est un cheikh salafi contemporain qui enseigne à la mosquée prophétique à Médine, qui est le fils du grand savant Cheikh al-Masih al-Abbad, qui est aussi enseignant à la mosquée prophétique de Médine et qui est toujours vivant aussi, un contemporain, qu'Allah les préserve tous, il dit, c'est-à-dire, c'est qui, en fait il définit ici, ce sont qui les gens qui détiennent le commandement parmi eux. Il dit, c'est-à-dire les savants enracinés dans la science qui savent bien extraire les jugements légiférés des preuves du Coran de la Sunna. Car les textes explicites ne délivre pas complètement la clarification de toutes les nouvelles affaires et de tous les jugements des calamités. Et ne peut bien conclure et extraire cela à partir des textes de la législation que les savants enracinés dans la science. Aboul Aliya a dit, ceux qui détiennent le commandement sont les gens de science. On revient à la parole de l'imam Sa'di rahimahullah. Les gens qui ont une bonne vue sur les choses et de science et de conseil et doués de raison et qui ont de la mesure de la sagesse. Ceux qui savent les choses et connaissent les intérêts, les biens de leurs contraires, les maux. Et donc, s'ils voient qu'il y a un bien dans sa diffusion et un entrain pour les croyants, et une joie pour eux et une prudence quant à leur ennemi, alors ils le font. Et s'ils voient qu'il n'y a pas de bien en cela ou qu'il y a un bien en cela, mais que le mal en cela est plus grand que son bien, on revient à la règle qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a citée tout à l'heure, alors ils ne le diffusent pas. Et c'est pour cela qu'Allah a dit, selon la traduction du sens est, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. C'est-à-dire qu'ils l'auraient conclu, tiré comme résultat, par leur avis et leurs opinions correctes, et par leur science juste. Et il y a en cela la preuve d'une règle éducative, qui est que, s'il y a une recherche au sujet d'une affaire parmi les affaires, il convient que s'en chargent ceux qui en sont capables, et que cela soit laissé à leur charge, et de ne pas les précéder, car cela est plus proche de la vérité, et plus sûr d'être à l'abri de l'erreur. Il y a en cela l'interdiction de se hâter et de se précipiter de diffuser les affaires dès qu'on les entend. Il y a en cela l'ordre de réfléchir avant d'en parler et l'ordre de l'analyser. Est-ce un bien pour que l'individu s'y avance ou un mal et que donc il s'en empêche? Tafsir Sa'di du verset 82 de Surat Nisa. Ici, on revient un peu en arrière dans le temps. Vous vous rappelez par rapport aux caricatures danoises? Et aux premières caricatures par Charlie Hebdo et d'autres, eh bien, les salafis, comme d'habitude, sont revenus au ulama. Ils n'ont pas réagi de manière ignorante et violente, extrême, etc. Ils ont appliqué à la lettre les paroles des savants de la sunna qui parlent avec la science du Coran et de la sunna du prophète, selon la compréhension des nobles compagnons, qui étaient les témoins de la révélation. Et donc ici, voici la question posée au noble cheikh, qu'Allah le récompense en bien pour nous avoir accordé du temps et pour ses précieux conseils. Vous n'êtes pas sans savoir, ô notre cheikh, qu'Allah vous préserve, qu'en ce mercredi matin, 7 janvier 2015, 12 personnes ont été tuées, maintenant on est arrivé tristement au chiffre de 17, dont 8 journalistes et un policier au siège d'un journal dans le centre de Paris. Évidemment, le chiffre a augmenté tristement dans les jours qui ont suivi. Et ceux qui ont commis ce crime ont prétendu avoir vengé le prophète, alayhi salatu wassalam. Et maintenant, les doigts pointent vers les musulmans. Et hier, certaines mosquées ont essuyé des tirs et une grenade a été jetée dans une mosquée. Et ça, on n'a pas rapporté le fait que certaines de nos sœurs ont été attaquées, certains de nos frères ont été attaqués, il y a eu des insultes, etc., etc. La question est donc, quelle est la position salafie envers ces actes terroristes? Et quel est votre conseil pour les musulmans en général en France et pour les prédicateurs et les imams salafis qui délivrent le serment en particulier? La réponse du noble savant, Cheikh Abdel Jabiri, qu'Allah le préserve. Au nom d'Allah, et toutes les louanges reviennent à Allah, et que la prière et la salutation d'Allah soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci étant dit, premièrement, ces actes terroristes ne font pas partie des actions des gens de la Sunna, la tradition prophétique. Mais au contraire, ils font partie des actions des causeurs de troubles parmi les Khawarij et ceux qui gravitent dans leur orbite, s'ils se revendiquent de l'islam. Deuxièmement, je dis à vos voisins parmi les non-musulmans français ou autres en Europe et en Amérique. Et j'espère qu'il y a des non-musulmans qui nous écoutent ici et qui écouteront cette parole de ce noble savant de l'islam, de cet érudit, Cheikh Abdel Jabiri Hafidahullah. Il dit: vous ne trouverez aucun savant parmi les gens de la Sunna, c'est-à-dire les salafis, qui approuvent ces actes et y incitent. Mais au contraire, les gens de la Sunna, les salafis, que cela soit leurs savants ou leurs étudiants en sciences islamiques ou le commun des gens parmi eux, condamnent à bord ces actes anarchiques. Et ceux qui ont commis ces actes sont soit des khawarij ou des ignorants qui ne connaissent pas la tradition prophétique, la Sunna. Ils ne savent pas comment les gens de la Sunna se comportent avec leurs voisins non musulmans. Les gens de la Sunna, les salafis, sont bienfaisants envers leur voisinage et respectent les engagements, les pactes, les conventions et désapprouvent ces actes anarchiques et barbares. Et notre frère Hassan, il a très bien rappelé dans son cours de samedi, de ce samedi-ci, hier, lorsqu'il a dit, il a rappelé que nous vivons dans des pays occidentaux et nous vivons sous des pactes et des accords et des conventions, que ce soit par un visa, par la nationalité ou par autre. Donc le cheikh dit ici, il continue, les gens de la Sunna sont bienfaisants envers leur voisinage et respectent les engagements, pactes, conventions et désapprouvent ces actes anarchiques et barbares. En guise de conclusion, je conseille nos fils parmi les musulmans. Écoutez ce conseil basé sur la science, c'est pour ça qu'il est important de revenir aux ulama. Et de pas revenir à des ignorants ou à des gens extrêmes qui n'ont aucune science de la révélation. Il dit en guise de conclusion, je conseille à nos fils parmi les musulmans, qu'ils soient des imams qui délivrent des sermons ou des enseignants ou des prédicateurs, de proclamer leur désaveu de ces actes barbares et qu'ils le notifient aux forces de l'ordre et à tous ceux qu'ils peuvent joindre. Qu'Allah facilite à tous ce dont il est satisfait, et que la prière et la salutation d'Allah soit sur notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Dicté par Ubayd ibn Abdillah ibn Suleyman al-Jabiri, anciennement enseignant à l'université islamique de Médine, le matin du vendredi 18 de Rabi' al-Awwal 1436 de l'Hégire, correspondant au 9 janvier 2015, et c'est une question écrite et traduite de ma part, et revue corrigée par notre frère salafi Ammar Abou Nawas al-Jazairi, qui résidant à Médine, et revue corrigée et posée au cheikh par Hassan Abou Asma al-Maghribi, qui réside actuellement au Maroc. Et vous avez dans le PDF qui est disponible déjà sur le site un lien pour l'audio de l'appel téléphonique. Et par rapport à ce qu'il a dit le cheikh ici, quand il a dit qu'il le notifie aux forces de l'ordre, à tous ceux qui peuvent le joindre, et qu'il fasse savoir aux non-musulmans, etc., ici il y a un travail important, c'est de le dire et de le proclamer, et de le faire savoir aux plus de gens qu'on peut, et de le faire savoir aux médias et de le faire savoir aux forces de l'ordre. C'est un travail qui est déjà fait par nos frères anglophones, encore une fois. Et c'est aussi parce que les médias anglophones donnent plus la plateforme à nos frères salafis que dans les médias francophones. Et ça, c'est quelque chose de très très important pour que les médias doivent comprendre que si on veut vraiment sincèrement lutter contre cette radicalisation et lutter contre cet extrémisme, il faut laisser la plateforme aux gens qui sont capables de traiter le problème au niveau théologique. Et ce sont les salafis. Notre frère Hassan Somali, qui réside aux États-Unis, il a eu une interview avec Channel 5, qui est une chaîne aux États-Unis, Et c'est une intervention téléphonique, elle fait 20 minutes, je vous conseille vivement de l'écouter pour les frères qui comprennent et les sœurs qui comprennent l'anglais. C'est une intervention magnifique et il a bien souligné ce point-là aussi. Il a souligné aussi la tradition ancienne des salafis contemporains de mise en garde contre le terrorisme et les idéologies extrémistes qui amènent au terrorisme et aux actes violents. Il y a l'extrémisme non violent également. Ça, il a bien rappelé cela. Il a apporté notamment le fait que Cheikh Obeid est très connu pour cela et d'autres savants, et comme le mufti d'Arabie Saoudite d'ailleurs, qui a mis en garde de manière très claire contre Daesh et contre Jabhat Nusra et contre tous les groupes terroristes extrémistes, Khawarij. Et d'ailleurs, Cheikh Obeid et Cheikh Abdelaziz Lichir et les autres savants salafis ont fait la fatwa qu'il est obligatoire de dénoncer ces gens-là aux autorités si on les connaît, si on sait qu'ils ont ces idées-là et qu'ils sont capables de faire ce genre d'action-là, il est obligatoire. Et n'écoutez pas les discours des extrémistes qui vous traitent de vendu ou autre. Au contraire, cela fait partie du fait d'en donner le bien, d'interdire le mal. Et avec cela, pour ne pas faire trop long, on va s'arrêter à cela, inshallah ta'ala. Et je vous remercie pour votre patience et votre écoute. Wallahu a'lam wa subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et avant que j'oublie, notre frère Hassan Abou Esma a aussi fait une interview pour la BBC. Une interview de plus ou moins 5 minutes qui est disponible. Les deux interviews, j'ai tweeté les liens, que ce soit celle de Abu Khadija ou de Hassan Somali aux États-Unis, les liens des audios de ces interventions téléphoniques. De Abu Khadija, pardon, pas de Hassan Abou Esma, je me suis trompé, c'est Abu Khadija et Hassan Somali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.